Antenne, ding ding dong.
Manifeste de ding ding dong par Alice Rivière pour l'Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. Partie 2. Pas une seconde dans tout ce parcours, je n'ai eu la sensation qu'on attendait de moi autre chose qu'un comportement prédéterminé. Le bon comportement. Celui qui allait ou non m'ouvrir l'accès à ce que je demandais. Passer ce test. Passer ce test parce qu'à partir du moment où il existait, à partir du moment où il a été inventé, je devais le passer. Du seul fait de son existence, ce test a été pour moi une proposition irrésistible. Quand j'ai appris la maladie de ma mère, tous mes repères passés et futurs ont foutu le camp, du jour au lendemain. Et ce test m'est apparu tel qu'il était fondamentalement, flamboyant dans toute la splendeur de sa certitude absolue. Puisque ce test existait, je ne pouvais plus me passer de lui pour construire la moindre hypothèse solide quant à mon avenir. Toutes mes constructions bâties en dehors du test étaient nécessairement basées sur des espérances, sur un peut-être que non, proche de ce déni de la réalité que nous adorons tant dénoncer en psychologie. Inventer un instrument pareil, le test présymptomatique de la maladie de Huntington, si saturé de vertige, et se retrouver au service de cet instrument pour en faire le protocole ratatinant que j'ai subi, me semble non seulement extraordinairement décevant, mais significatif d'une faille très grave, inadmissible de la médecine. Ce test est une machine qui construit du destin. Se soumettre à ce test, c'est assister à la transformation radicale et instantanée de sa vérité intime, ce millefeuille perpétuellement frémissant, en une vérité tout court, qui est une définition médicale. Mon millefeuille et la définition médicale ne suivent pas les mêmes modes d'existence. Je veux bien intégrer la définition médicale dans mon millefeuille, mais la définition médicale ne sait pas intégrer mon millefeuille autrement qu'en le détruisant jusqu'à la dernière miette. Dans ce genre de dispositif, la médecine construit des formes très singulières de vérité, des vérités qui ne sauraient mentir, dont la particularité est d'écraser toutes les autres. Pendant le protocole, la généticienne a passé son temps à me dire qu'en cas de mauvais résultat, ce qu'elle allait me divulguer ne serait pas un diagnostic sur mon état présent, mais une information sur mon état futur. Or, la nuance entre ce qu'est une information et ce qu'est un diagnostic est bien trop subtile pour être effective quand il s'agit d'une maladie génétique comme Huntington, où la pénétrance de l'anomalie génétique est complète. Ce test est redoutable. Je ne regrette pas de l'avoir fait, parce qu'il ne sert à rien de regretter quelque chose d'inévitable. Je regrette par contre que ce test ait été inventé. S'il n'avait pas été inventé, je ne l'aurais pas passé, et j'aurais été contrainte de construire quelque chose d'autre à partir de l'annonce de la maladie de ma mère. Aujourd'hui, je le sais, j'avais deux devenirs possibles. Non pas avec ou sans Huntington, mais avec ou sans le test. Les experts avancent précautionneusement, concernant le test, qu'il s'agit plus de la révélation d'un statut génétique que d'un diagnostic. Pourquoi pas? Mais alors, qu'ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin et travaillent avec nous sur cette énigme qu'ils produisent? Qu'est-ce que peut bien signifier pour une personne la révélation de son statut génétique? Une révélation, ce n'est pas rien. C'est énorme, une révélation. Et je suis tout à fait d'accord avec les généticiens quand ils parlent de révélation pour qualifier ce test présymptomatique. Mais je ne suis pas d'accord avec les conséquences qu'ils attribuent à ce genre d'expérience. Les révélations ne vous informent de rien, au contraire, elles vous transforment. Elles peuvent soit vous rendre malade, soit vous soigner, tout dépend de ce qu'on en fait. Ce test peut aussi bien être une révélation qu'une malédiction. En ce qui me concerne, et je sais que d'autres partagent avec moi ce sentiment, ce test a cessé d'être une malédiction à partir du moment où j'ai mis en place une mesure de protection véritablement active vis-à-vis de la médecine. Je reproche aux chercheurs et aux médecins d'avoir inventé une proposition irrésistible pour quelqu'un qui se trouvait dans ma configuration, et d'adopter ensuite un comportement qui soit si peu à la hauteur, non pas tant vis-à-vis de moi que vis-à-vis de leur propre invention, le test. Le protocole lui-même témoigne de ce problème à chaque étape. Les médecins que j'ai rencontrés étaient à la fois terrifiés et fascinés par ce qu'ils étaient en train de me faire. Et depuis cette étrange position, ils n'ont rien pu m'offrir d'autre que de la stéréotypie déprimante et corrosive. Les seules propositions qu'ils m'ont faites ont été des énoncés de malédiction. Votre mère est démente. Votre vie est une pièce de monnaie. Elle se joue à pile ou face. Ça va être terrible pour les proches. Il n'y a pas de traitement. Pour le moment, vous êtes très bien et quand ça n'ira plus, vous reviendrez travailler chez nous votre handicap. Votre projet d'adopter un enfant ? Mi-consterné. Pensez la maladie de Huntington ensemble. Pensez ensemble cette affaire pourtant si énigmatique. Cela n'a tout simplement jamais été une option pour eux. Peut-être qu'ils ne sont pas là pour ça, puisqu'ils sont médecins et pas philosophes. Peut-être qu'ils ne sont là que pour soigner, pour traiter. Le problème, c'est qu'avec Huntington, ils n'ont justement aucun moyen de soigner. Il n'existe aucun remède contre cette maladie. Je leur reproche exactement ceci. Non pas de ne rien pouvoir faire pour moi, ils ne sont pas tout puissants, je le sais bien, mais d'opter pour une position professionnelle par défaut qui manque d'humilité tout en étant lâche. Si vous n'avez pas les moyens techniques de nous guérir, mais que vous êtes en position de ce test qui est un instrument trop puissant pour vous, essayez de saisir cette chance pour apprendre des choses. Essayez tout de même de vous bousculer un peu. La situation est inhabituelle, alors ne faites pas comme d'habitude. Ne me prenez pas pour du déjà vu, du déjà connu. Vous êtes en train de me prédire un avenir huntingtonien, et puis vous me dites que je n'ai pas assez d'émotion ? Vous rendez-vous compte de l'absurdité et de l'agressivité totale de votre position à ce moment-là ? Le problème n'est pas l'incurabilité de Huntington. Le problème est votre impardonnable incapacité à saisir ce que vous êtes les seuls à pouvoir manier, pour en faire quelque chose de vivant. Mais vous n'osez pas. Vous êtes lâche. Vous rabâchez votre conscience tranquille, tandis que nous nous débattons avec ce test, en profitant pour nous infantiliser d'un bout à l'autre. Ma colère est exactement là. Ceux qui passent le test sont une chance pour faire monter un peu votre niveau. Et vous ne vous en saisissez absolument pas. Au contraire, vous voulez nous quiconquiser comme d'habitude. Et ce faisant, non seulement vous ne nous guérissez pas, mais vous aggravez notre situation. Vous la rendez encore plus déprimante qu'elle ne l'est. Parce que vous bouchez les issues, vous aplatissez nos futurs. Vous nous confectionnez un devenir huntingtonien, plat, médiocre, handicapé, insensé, sans surprise, qui n'est défini nulle part ailleurs que par vous, sans même concevoir qu'il soit possible d'être huntingtonien en échappant totalement au modèle que vous avez mis en place, en étant résolument non conforme à votre définition. Il ne vous vient jamais à l'esprit que vous ne nous possédez pas, que nous pouvons être autre chose que vos créatures. Et comment le pourriez-vous ? Votre puissance a transformé des humains en des créatures médicalement conformes, en des êtres dont les tenants et les aboutissements ne sont définis que par vous. Cette puissance-là est telle qu'il est extraordinairement difficile, voire impossible, une fois pris dans sa machinerie, de s'en dégager et de s'en défendre. La plupart du temps, quand on est malade, on est doublement coincé, par la maladie et par la médecine. Qu'un malade commence à contester la manière dont il est pris en charge et il sentira sa douleur et son isolement. Au mieux, on lui rétorquera qu'il est agressif, parce qu'en tant que malade, il se sent victime d'une injustice et qu'il n'existe nul autre endroit où adresser sa colère. Au pire, s'il est fumeur et qu'il a tendance à boire un coup de temps en temps, on lui signifiera que ce qui lui arrive est de toute façon sa faute. Comment oser contester ceux qui ont le pouvoir de nous guérir ? Ce rapport de pouvoir qui coule la bouche à la contestation est profondément malsain. J'ai de la chance. La médecine ne peut rien pour moi. C'est pourquoi je suis totalement libre de la critiquer. Mon indignation est encore plus grande devant l'attitude de la psychologie à l'égard de Huntington. Si la médecine considère que la production de pensée n'est pas son domaine, tant pis pour elle. je suis par contre sidéré que la psychologie puisse adopter une position similaire. Comme partout ailleurs, la psychologie est utilisée dans le cadre du protocole du test de Huntington pour intervenir là où les compétences médicales trouvent leur butée. Au moment où elle doit remplir sa mission magnifique et ambitieuse, inventer du soin malgré tout, la psychologie se met à fonctionner elle aussi par défaut, me badigeonnant de notions préétablies et extraordinairement inadéquates, comme celle de « travail de deuil ». Elle aussi décide ostensiblement de me traiter comme du déjà connu, et ce faisant, elle œuvre pour la médecine et non pour moi, en renforçant avec ses outils psychologiques l'impact de la malédiction médicale. M'inviter à travailler le deuil de ma normalité est non seulement stupide, mais dangereux. Je ne suis pas encore morte. Je n'aurais peut-être pas dû naître, mais je ne suis pas encore morte. Et comme la plupart d'entre nous, je n'ai jamais été normale. Quand on me suggère de travailler le deuil de ma normalité, on me fait entrer dans un programme normatif de rétrécissement existentiel à long terme, qui tue, avant même de les explorer, toutes les potentialités singulières contenues dans l'expérience de mon devenir Huntington. Je comprends l'embarras de la médecine qui est la propriétaire et la gardienne de ce test, et ce qu'elle le veuille ou non. Elle possède la compétence de ce geste, mais elle est très ambivalente quand il s'agit de le mettre à disposition du fameux public à risque, notamment après avoir constaté une augmentation des passages à l'acte suicidaire chez les personnes qui apprennent qu'elles sont porteuses. Et s'il y a une chose que la médecine abhorre, c'est bien de tuer les gens. Elle n'a au contraire qu'une obsession, c'est de faire en sorte que les gens ne meurent pas, ou que, s'ils meurent, ce ne soit surtout pas de sa faute. La médecine a tout à fait raison de craindre le passage à l'acte suicidaire des personnes qui vont jusqu'au bout du protocole du test présymptomatique. Elle attache ce risque au résultat lui-même. Mon hypothèse est que, telles que les choses sont configurées à l'heure actuelle, du point de vue de leurs effets, tests et maladies se confondent. Le test déforme votre vie, que vous ayez ou non la maladie. Si le test annonce que vous n'êtes pas porteur, il n'en reste pas moins que vous avez été hanté par la possibilité de l'être d'une telle manière que vous en avez été altéré au plus profond de votre moi. Une fois le résultat annoncé, que faire de cette métamorphose amorcée? Sans compter que ce résultat est un déchirement vis-à-vis de ceux qui, dans votre famille, sont affectés. Comment vous réjouir sans opérer un détachement irréversible à leur égard, sans vous sentir coupable? Si le test annonce que vous êtes porteur, votre devenir est instantanément transformé en un devenir dégénérescent. Vous êtes fait échec et mat. Le protocole peut agiter tout ce qu'il veut autour de vous, ses assistants sociaux, ses psychiatres, ses psychologues. Il ne fait au contraire que confirmer et potentialiser le ratatinage de votre devenir annoncé par le test. Dans ces conditions, ce qui m'étonne, ce n'est pas qu'il y ait des dépressions et des passages à l'acte suicidaire, mais qu'il existe tout de même des survivants à cette expérience. Dans tout ce parcours si puissamment assignant, ce parcours dont la seule ligne de fuite mise à ma disposition par la médecine est un rétrécissement généralisé, la dégénérescence, le suicide m'est apparu instantanément comme la seule contre-voie à la hauteur dans sa puissance, dans sa force de contestation et dans sa force de liberté. J'ai tout de suite pensé, si c'est pour dégénérer, autant arrêter tout de suite. Ce devenir-là ne m'intéresse pas, je le refuse. Et si je n'ai pas les moyens, paraît-il, de le refuser, si la seule chose qu'on me propose, c'est de m'aider à l'accepter, alors j'arrête ici, parce que ça ne m'intéresse pas d'accepter une chose pareille. Je refuse de considérer que la vie soit une dégénérescence. Je n'ai jamais considéré, par exemple, que la vieillesse puisse être fatalement une dégénérescence, qu'elle puisse être cette équation par défaut qu'on nous rabâche. Plus vous avez d'années, plus vous vous chopez de moins. Moins de vitalité, moins de santé, moins de mémoire, moins de sexualité, moins de saveur, moins de savoir. Je n'ai jamais pu me résoudre à penser les choses ainsi. Et si tout de même, du fait de Huntington, je suis contrainte de me considérer comme quelqu'un qui ne va plus progresser, alors tant pis, j'arrête là, d'une manière ou d'une autre. J'ai pensé les choses ainsi à partir du moment où j'ai été contaminé par la définition médicale de Huntington, et plus généralement, par la définition médicale de mon statut génétique. Depuis cette contamination, mon suicide devenait la seule réponse sensée à une proposition médicale absolument insensée. Je suis parvenu à m'extirper de cette contamination en instaurant un cordon sanitaire entre la médecine et moi. C'est-à-dire quand j'ai compris que, si je suis bien atteinte par quelque chose, ce n'est pas tant par la maladie de Huntington que par la maladie dont la médecine, si elle sait bien la repérer, ne sait à peu près rien faire de plus que cela, la repérer. Quand j'ai compris que la médecine ne définissait rien, qu'il fallait prendre sa définition comme ce qu'elle est, un arrêt, un au-delà de cette limite, nous ne sommes plus compétents. Autrement dit, un objet qui continue d'être totalement à penser et à définir. J'ai pu respirer à nouveau. La médecine prend ses limites pour de la définition. Et j'étais en train d'être moi-même défini par cela, défini par ses limites. Le test fabrique de la maladie de Huntington sous la forme d'une entité quasi vide, évanescente, mais terriblement possessive et terrorisante, qui a les caractéristiques d'un fantôme. À chaque fois qu'un patient passe ce test et qu'on lui annonce un devenir huntingtonien, l'une de ces créatures étranges voit le jour. Le protocole et toutes les pensées qui ont configuré ce protocole, exclusivement en termes de précaution et de quiconquisation, ne sait pas accueillir cette créature autrement qu'en la maintenant dans un rapport de domestication qui se nourrit de la notion de dégénérescence. La situation est donc très proche d'un état de guerre. La médecine est mon ennemi tant qu'elle persiste à vouloir m'assigner, comme elle le fait, un avenir mortifère. Elle peut être mon alliée si et seulement si elle accepte d'échafauder un surcroît d'intelligence, c'est-à-dire de vitalité, à partir de ce qui m'arrive. Il a fallu 4 ans pour me soigner. Non pas de la maladie de Huntington, mais des conséquences psychologiques que les paroles prononcées au moment du test ont eues sur moi. J'appelle ces paroles des formules tragiques. Elles sont aussi puissantes que les formules magiques, mais elles agissent comme de la pourriture, réduisant les multiplicités contenues dans l'avenir en un devenir étroit, monolithe, plat, malade effectivement, et empêchant la pensée de faire son travail, non pas de deuil, mais au contraire d'invention. Je m'en suis sorti parce que j'ai rencontré une neurologue spécialiste de la maladie de Huntington qui a accepté d'entamer avec moi la fabrique d'un antidote. Ce médecin est doté d'une patience et d'un bon sens résistant à toute épreuve, d'un dévouement et d'une empathie extraordinaire, mais ce n'est pas ce qui constitue à mes yeux le plus important de son efficacité. Et d'ailleurs, je ne doute pas qu'au sein de la médecine que je critique ici si violemment, il y ait beaucoup de professionnels dotés de ces qualités. Sa capacité à fabriquer l'antidote dont je parle dépend pour moi d'une seule chose, sa posture d'humilité vis-à-vis de la maladie, d'humilité a priori. Elle aurait pu refuser de faire ce travail parce que cela ne relève pas de sa mission, laquelle est de prendre en charge les malades et non de soigner des porteurs présymptomatiques comme moi qui sont tombés malades à cause du test. Mais elle m'a proposé de le faire, et surtout, elle m'a proposé de le faire en prenant délibérément le parti de ne pas savoir à l'avance ce dans quoi nous, elle avec moi, étions en train de nous engager. À partir du moment où nous étions calés dans cette disposition, l'antidote n'a pas été si compliqué à fabriquer. Cela a consisté en une lente et progressive réinjection de tout ce qui avait été rogné par le test. Le doute, l'indétermination, l'hésitation, le peut-être, les possibles, le tâtonnement. Autrement dit, elle a adopté une posture pragmatique, suivre ce que cette expérience nous apprend, plutôt que déterministe, savoir à l'avance ce qui va se passer. Chemin faisant, au cœur de cette configuration si abstraite, si mate et si vide qui a pour titre « Programme génétique de Mademoiselle Alice Rivière avec mutation huntingtonienne », elle a infiltré, goutte à goutte, la possibilité de déployer, à nouveau et à chaque étape, de la surprise, du déroutement, de l'égarement, du zigzag, de la profondeur, de la perspective, du chatoiement, de la connaissance inédite, bref, du vivant vivant.